Bonjour mes frères et sœurs, je vais vous apporter un message qui est la suite de ce que je vous ai enseigné dimanche passé et le dimanche d'avant. Vous vous rappelez que je vous ai donné les 5 règles incontournables pour avoir une bonne vie harmonieuse en Jésus-Christ. Et entre-temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes de Dieu qui ont une profondeur et qui m'ont affirmé des choses qui m'ont un peu étonné. Je me suis posé des questions, j'ai posé des questions au Seigneur et voilà, je voudrais vous apporter ce message ce soir qui est un petit peu le fruit d'une réflexion que je me suis faite alors que j'étais en prière et que je cherchais à comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur me dirige comme il me dirige et pourquoi il me conduit comme il me conduit. Alors c'est vrai que en y pensant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'aurais pu commencer par la première règle. Quand j'ai parlé de ces 5 règles incontournables, j'aurais pu commencer par celle dont je vais vous parler ce soir, qui va être en fait la 6e règle. Mais finalement, bon, c'était pas plus mal que le Saint-Esprit me guide comme il m'a guidé. Prions. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu aides mes frères et sœurs à bien saisir ce que je veux dire et qu'ils ne voient là aucun esprit de critique ou de jugement sur les églises, mais qu'ils sachent discerner que c'est pour le bien du corps de Christ que je dis ces choses, afin que ceux qui doivent se préparer, se préparent et pour ton retour. Je te remercie, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, c'est vrai que pour beaucoup de chrétiens, l'amour, c'est quelque chose d'un peu abstrait. En tout cas, l'amour, c'est pas ce que nous disent les chansons. Hein. Vous connaissez peut-être la chanson. L'amour, c'est comme une cigarette, ça brûle comme une allumette, ça pique les yeux, ça fait pleurer, et ça s'envole en fumée. Non, ça, c'est pas l'amour dont Dieu parle. Ah, ça, c'est l'amour humain, charnel. C'est vrai que ça pique les yeux, que ça fait pleurer des fois. Mais c'est l'amour charnel, ça. Non, l'amour, c'est un ordre, en fait. On va lire ça dans 1 Jean 4, versets 7 à 10, s'il vous plaît. 1 Jean 4, 7 à 10. Voilà ce qu'il est dit. Bien-aimé, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, qui dit: aimons-nous les uns les autres. C'est un ordre, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus dit, par ailleurs, on trouve ça dans l'évangile de Jean, toujours, l'apôtre de l'amour, Jésus dit: « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà. L'amour, c'est ce que produit le Saint-Esprit dans nos cœurs. On a l'habitude de dire c'est le fruit de l'Esprit. Bien sûr, c'est le fruit de l'Esprit, c'est un des fruits de l'Esprit, mais moi je veux dire c'est le produit. Hein? C'est ce que le Saint-Esprit, quand il vit dans quelqu'un, c'est ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour. Et l'amour, ça n'est pas un sentiment, c'est un don de Dieu, c'est quelque chose qui vient d'une façon surnaturelle, c'est quelque chose qui n'existe pas chez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous allez me dire, ah, mais il y a des gens qui sont capables d'un amour désintéressé, formidable et tout. L'amour que connaissent les non-régénérés peut être parfois très beau, mais il n'est pas surnaturel, il est naturel. L'amour naturel, c'est déjà beaucoup mieux que la haine ou que l'indifférence. c'est certain, mais ça peut s'envoler en fumée, et ça peut faire pleurer et piquer les yeux. Vous avez compris ce que je veux dire, c'est, là je vous parle de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et là, le texte que nous avons lu, c'est « Celui qui aime connaît Dieu ». On ne peut pas dire que tous ces gens qui disent « je t'aime », connaissent Dieu. C'est pas vrai. Ils ont un amour, ce sont des sentiments, ce sont des... Il y en a qui donnent vraiment beaucoup par amour, par un amour naturel, mais ce n'est pas encore l'amour de Dieu. Donc la démonstration la plus claire que nous sommes disciples de Jésus-Christ, c'est de nous aimer les uns les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour, alors, finalement ? Faut qu'on en parle quand même, hein, parce que c'est bien de dire que l'amour de Dieu, c'est quoi ? Alors, voyons un petit peu, on va lire un Corinthiens 13, je pense que vous connaissez tous ce passage, mais je vais vous lire dans une version que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la version Parole vivante d'Alfred Kuhn. C'est une version amplifiée, voilà ce qu'il dit. Alors, 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Si je savais parler toutes les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des prédicateurs, voyez, connaître tous les secrets du plan de Dieu, être versé dans toutes les sciences, et je peux même avoir une foi absolue au point de transporter les montagnes. Je coupe parce que c'est quelqu'un qui me téléphone. Je reprends. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des prédicateurs, connaître tous les secrets du plan de Dieu, être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter les montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, c'est quand même pas rien, hein, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. D'abord, quand même, moi, je ne suis rien, si ça ne me sert à rien. Même de me faire brûler pour mes convictions, même de distribuer tout mon argent, tout aux pauvres, si j'ai... on peut le faire pour se faire voir, on peut le faire pour se rassurer, on peut donner... Mais ce n'est pas ça l'amour. Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté, de bienveillance, il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale, s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes malhonnêtes. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, il endure, il excuse. Il sait passer par-dessus les fautes des autres. Aimer, c'est faire confiance à l'autre, attendre le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner, c'est savoir tout supporter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Voilà, ça c'est, à mon avis, c'est un des plus beaux passages de la Bible. Comment peut-on aimer nos frères et sœurs, mes frères et sœurs, comment peut-on aimer nos frères et sœurs si on ne les connaît pas, si on ne les voit qu'une ou deux fois par semaine, assis dans un local pompeusement appelé « église » Vous savez, vous allez dans n'importe quel local appelé pompeusement Église de Jésus-Christ, vous prenez 20 personnes et vous les mettez les 20 dans une maison pour vivre ensemble, pour tout partager, pour prendre leur repas ensemble, pour s'entraider. Mais ils ne vont pas tenir 2 mois. Ils ne vont pas tenir 2 mois. Et encore, quand je dis ils vont tenir. C'est comme ça. J'ai vu ça. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils aiment leurs frères et sœurs religieusement, pas spirituellement, mais religieusement. « Je t'aime de l'amour du Seigneur. » Ça, c'est une jolie phrase, n'est-ce pas ? On entend des fois les pasteurs dire « Retourne-toi vers ton frère de droite ou ta sœur à gauche et dis-lui « Je t'aime de l'amour du Seigneur. » On sent un grand sourire, on serre la main. C'est du cirque. C'est pas vrai. C'est pas ça, aimer. Alors, ils peuvent avoir des prétentions. Tous ces gens-là peuvent avoir des prétentions. Nous prêchons le plein évangile. Il y en a qui disent ça. Hein. Ils sont très nombreux. Nous prêchons le plein évangile. Ah bon ? Ou alors, certains disent, nous sommes les seuls à avoir la sainte prêtrise. Oui. D'autres disent même, en dehors de nous, pas de salut. Ben qu'ils le prouvent. Non pas en faisant des miracles, parce que les miracles, il y en a qui feront des miracles qui seront quand même envoyés en enfer. Hein. On peut faire des miracles par la foi sans aimer. Simplement par la foi. Même les gens du monde font des miracles. Vous avez des miracles dans toutes les religions, vous avez des miracles formidables dans tous les hôpitaux. Des miracles chirurgicaux, des miracles psychosomatiques, des miracles magnétiseurs et compagnie. C'est formidable tout ce qu'ils font, ces gens. Des miracles. Non, non. Qu'ils prouvent qu'ils ont raison, tous ces gens-là. Qu'ils sont les meilleurs. Qu'ils le prouvent en pratiquant ce qui est inimitable. L'amour fraternel. Alors, il parle d'amour. Oui, ça, il parle d'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Mais pour arriver au stade de l'amour de Dieu, et ça, c'est le but de chaque chrétien, ben, il faut commencer par construire. L'apôtre Paul nous dit, mais comment tu construis du chaume avec du bois, avec de l'or, avec de l'argent, avec quoi tu construis ta vie? Avec quel matériau? Eh bien, on ne construit pas premièrement avec l'amour. On ne commence pas par l'amour. Non. On commence par bâtir notre vie chrétienne de disciple avec la foi. Ça, c'est la base. On me dira, bon, c'est pas l'amour. Non, 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 vous allez voir. Avoir foi en Dieu. Avoir foi aussi en soi. Avoir foi dans les autres. Et puis, après, on construit... Sur la foi, la Bible dit même, on fait tous vos efforts, n'est-ce pas, pour rajouter à votre foi un autre matériau. Faites tous vos efforts pour rajouter à la foi la vertu, c'est-à-dire la force de caractère. Sans force de caractère basée sur la foi, on ne peut pas aimer de l'amour de Dieu, on ne peut pas. Si on n'a pas de force de caractère, on n'arrive pas à supporter, à avoir toutes ces choses-là, la différence, les quelques injustices qu'on peut vérifier dans l'Église, ou ces choses-là, si on n'a pas une force de caractère, on va sauter au plafond, et puis voilà. Et puis, après avoir travaillé sur notre force spirituelle, il faut, donc, pour forger notre caractère dans le Saint-Esprit, dans la prière, dans l'exercice, eh bien, il faut joindre, la Bible nous dit, la connaissance à la vertu. La connaissance, ah bon ? La connaissance, non pas du bien et du mal, ça c'est le monde qui vit selon la connaissance du bien et du mal, non. Nous vivons selon... Nous devons ajouter la connaissance de Dieu. Ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Hein ? Et puis aussi, connaître qui vous êtes, dans le Seigneur, connaître... qui sont vos frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que si vous n'avez pas la connaissance de qui sont vos frères et sœurs dans le Seigneur, ben, vous verrez toujours leur côté humain, minable, détestable, agaçant, vous comprenez. Puis à cette connaissance, vous devez ajouter la maîtrise de soi. Parce que sans ce pur produit du Saint-Esprit, la maîtrise de soi, c'est impossible de vivre l'Église telle que Jésus la veut dans Acte 2, Acte 4, où il vendait tout, il mettait tout en commun, ils prenaient leur repas ensemble, il n'y avait pas de pauvres parmi eux parce qu'ils avaient tout en commun. C'est pas possible. Et seulement après avoir construit sur votre foi, après y avoir ajouté la force de caractère, puis la connaissance, puis la maîtrise de soi, oui, c'est tout un travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là seulement, vous serez capable d'ajouter la patience. Parce qu'il vous en faudra de la patience pour entrevoir comment aimer vos frères et sœurs qui sont si différents de vous, de cultures différentes, d'éducations différentes. Et puis c'est pas fini, l'amour c'est pas encore là. Là, sur la patience, vous devez ajouter encore quelque chose, la piété. Alors la piété, maintenant, demandez même à un pasteur qu'est-ce que c'est la piété, il ne saura pas. Et vous ouvrez votre dictionnaire et vous voyez qu'est-ce que c'est la piété. La piété, c'est l'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques, aux ordonnances divines. Vous voyez ? Les religieux ont souvent inversé les choses. Ils vous parlent d'aimer, d'être pieux, d'avoir la foi. Eh bien, ce n'est pas l'ordre établi par Dieu. L'ordre établi par Dieu, c'est tout autre chose. On va lire 2 Pierre 1, 3, 7, s'il vous plaît. Je lis. Sa divine puissance, la divine puissance de Jésus, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure que sa part, celle-ci nous assure de sa part que les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine, c'est ça le but. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Vous voyez ce que je vous disais ? La foi d'abord, la vertu après. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez, mes frères et sœurs, on n'est pas en train de s'amuser à dire « Alléluia, le Seigneur est bon, gloire à Dieu, il suffit de prier. » Est-ce que je vous ai raconté des fables ? Non. Je vous ai enseigné ce que l'apôtre Pierre enseignait. Ce n'est que sur le fondement de la foi que vous devez construire selon l'ordre donné par Pierre et pour en arriver à l'affection fraternelle. Impossible de s'aimer les uns les autres en bricolant ou en mélangeant les priorités. Voilà pourquoi toutes ces églises ne sont que des synagogues. Le mot synagogue, c'est assemblée. Ce sont des assemblées. Ce sont des réunions dans des locaux plus ou moins beaux. Mais ce sont des synagogues, ce ne sont pas des communautés. Ce n'est pas l'Église. Ce sont des synagogues qui sont plus ou moins bien organisées, mais elles ne sont pas l'Église de Jésus-Christ. Aucune. Je dis bien aucune. Il y a des vrais chrétiens dans toutes ces synagogues, dans toutes ces assemblées, mais ces assemblées ne sont pas l'Église de Jésus-Christ. Je ne dis pas ça parce que je juge ou parce que je prends plaisir à condamner, non. Mais c'est pour mettre en place ce qui doit être mis en place. Nous vivons dans le temps du rétablissement de toutes choses. Eh bien, rétablissons les choses dans l'ordre. Afin que ceux qui cherchent à plaire à Jésus sachent comment agir. N'est-ce pas? Parce que c'est ça, c'est comment? Mais comment? Alors que Dieu vous bénisse, afin que vous arriviez à l'affection fraternelle. Parce que c'est sur l'affection fraternelle que l'amour, c'est-à-dire Dieu, vient prendre sa place. On va lire ça dans le psaume 23. Vous vous rappelez, je vous l'ai lu l'autre jour, le psaume 23. Il est très beau. Mais on le lit, voilà, en vitesse, comme ça. On ne réalise pas vraiment la portée des mots qui sont dits là. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous voyez? Et un peu plus loin, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, il y a le psaume 133. Je voudrais lire aussi. Psaume 133. C'est pas n'importe quoi, c'est pas par hasard que ces choses sont écrites. C'est pas des jolis poèmes qui ont été écrits comme ça. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs, de demeurer ensemble, d'habiter ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, le Saint-Esprit, qui descend sur la barbe d'Aaron, c'est-à-dire sur le ministère, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Pas ailleurs. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ou là où des frères demeurent ensemble. Ah, voici qu'il est doux pour des frères demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et pas seulement la bénédiction, mais la vie pour l'éternité, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors, Dieu tolère ces synagogues parce que, voilà, l'homme est dur, l'homme a le cou roide, comme nous dit la Bible. Mais il va falloir que ça change, parce que Jésus revient et il veut prendre avec lui une épouse qui est semblable à celle qui était à Jérusalem. Alors vous voyez, mes frères et sœurs, on a du travail. Pas simplement de prier, de demander à Dieu, donne-moi la patience, non, mais d'ajouter à la foi, d'ajouter ceci, cela, jusqu'à ce qu'on en arrive à vraiment avoir l'amour. C'est-à-dire d'abord avant l'amour, c'est un grand mot, l'affection fraternelle. Vous voyez, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'espère que je ne vous ai pas choqué, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous a fait du bien, que vous allez pouvoir mettre en pratique ces choses afin de glorifier votre Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir ajouter les choses les unes après les autres dans l'ordre que tu as établi. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Amen. Au revoir.